Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir retenu ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Il est né en 1954, enfant de l'assistance publique, abandonné au bout de 16 jours par sa maman, placé dans une dizaine de familles d'accueil. Il a la chance de rebondir grâce à l'amour de la musique qui va sauver sa vie. Il va devenir professeur de musique. Il aura aussi accompagné à la trompette de grands chanteurs français, Frédéric François, Mike Brandt, parmi les plus connus. Et puis surtout, à l'âge de 40 ans, par le biais d'un article publié dans l'hebdomadaire L'Express, il découvre qui est son père. C'est le début d'un long combat juridique qui fait que aujourd'hui, il porte le nom de son père qui a été guillotiné en 1957. Son père s'appelait Jacques Fesch et c'est le fils qui est aujourd'hui devant notre micro et lui c'est Gérard Fesch. Gérard Fesch, bonjour et merci d'être en notre compagnie aujourd'hui.
Bonjour, c'est un plaisir.
Gérard Fesch, je n'ai pas dit de sottises en introduction.
Non, c'est exactement ça.
Alors Gérard Fesch, deux livres à votre actif. Cette émission a été enregistrée en marge du Salon du Livre de Blanzy en Saône-et-Loire. Vous avez fait paraître, alors aux éditions Ballant, Gérard Fesch, fils d'assassin, fils de saint, avec une préface de maître Éric Dupont-Moretti aux éditions Ballant, et puis un ouvrage plus personnel cette fois-ci, où dans la pensée du moineau, c'est chez Bukelis, vous revenez sur alors votre vie et les valeurs de l'existence, l'amour, le partage, le monde politique. On aura l'occasion vraisemblablement d'en parler un peu ensemble. Tout d'abord, Gérard Fesch, vous avez, je vous ai découvert à travers vos livres, vous avez un parcours tout à fait surprenant et marquant. Parce que vous êtes un enfant de l'assistance, vous êtes né donc en 1954, votre maman vous abandonne au bout de 16 jours, vous êtes placé dans différentes familles d'adoption et il y a surtout une première famille d'adoption, c'est maman Marie. Ouais. Alors là, vous êtes en Saône-et-Loire, à Saint-Léger-sous-Beuvray. Mmh. Et j'aimerais que, aujourd'hui, si vous en êtes d'accord avec le recul, vous reveniez sur cette enfance difficile. Alors, chez maman Marie, ouais, c'est une maman Marie un petit peu comme celle qu'a connue Jean Genet, une famille affectueuse, aimante. Mmh. Maman Marie a même songé à vous adopter. Mmh. Pourquoi n'avez-vous pas été adopté par cette famille de Saint-Léger-sous-Beuvray?
Alors, je n'ai pas été adopté. Moi, j'ai retrouvé dans mon dossier, bien des années après, des choses un petit peu surprenantes. Hein. Le fait déjà qu'on ne voulait pas à l'époque que les familles puissent s'accaparer les enfants. Voilà, c'était pour pas que de lien se crée entre la famille nourricière et l'enfant. Voilà, moi, ce qui m'a surtout marqué dans cette histoire, donc je suis arrivé chez Marie, j'avais 18 mois, 1956, j'avais parfaitement compris, je savais qu'elle n'était pas ma mère, ça je l'avais compris, hein, ça ne me posait aucun problème, j'étais très heureux, pas de souci. Et puis, un jour d'avril 1960, elle est arrivée avec sa traction à l'époque et m'a tout simplement dit, Gérard, il faut que je... La directrice de l'ADAS, hein, je parle, est arrivée en me disant, Gérard, il faut que je te parle. monte dans la voiture, on va faire un petit tour.
Vous avez 5 ans et demi.
J'ai 5 ans et demi, voilà. Et je me souviens parfaitement lui dire, oui, mais j'aimerais quand même prendre des jouets, quelques jouets, voilà, simplement pour me rassurer. Et elle me dit, non, 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 mais on revient tout de suite, ne t'inquiète pas, c'est pas la peine. Et je monte dans la voiture. Et je n'ai jamais revu Marie. On est parti, elle m'a emmené, j'étais placé dans une sorte de, je ne sais plus ce que c'est, une sorte de, je ne sais pas où j'étais, quelques jours, et ensuite on m'a replacé dans une autre famille d'accueil. Et ça, j'ai trouvé que c'est moi, ça a été quelque chose de terrible. Plus, et en fait, après, bien des années après, je retrouve dans ce dossier que, effectivement, c'est terrible pour cette dame, c'est qu'on ne l'a pas prévenue à l'avance, et elle reçoit une lettre que j'ai dans mon dossier, où on lui demande, simplement, on lui dit, veuillez rassembler les affaires de Gérard, et merci de les déposer à l'arrêt de bus, on passera à les prendre. C'est terrible, ça. Et j'ai eu la chance de retrouver, à l'époque, j'habitais le petit village du Rebout, et je faisais 5 km à pied pour aller à l'école maternelle. Et je faisais ça avec plusieurs enfants du village, dont une personne un peu plus âgée que moi, que j'ai pu retrouver, qui m'a dit, ah, c'était terrible à l'époque, parce que Marie n'était pas du tout prévenue, et elle a passé des jours et des jours à t'attendre sur la route, à se demander qu'est-ce qui se passait. Ça, c'est des choses qui sont violentes, on va dire, et violentes.
Dans la pensée du moineau, vous écrivez « Privé de ma propre histoire pendant 40 années, j'ai été condamné à marcher avec une blessure qui jamais ne se cicatrisera. Oui, » Aujourd'hui, ce n'est pas cicatrisé ?
Non, parce que à l'issue de tout ça, effectivement, on a des blessures qui restent. Le fait de ne pas avoir de parents, de ne pas pouvoir dire à qui que ce soit, papa ou maman, c'est déjà quelque chose. Les rapports de la famille, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de mal encore avec ça. Mais ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se cicatriser. Le passé est comme ça et on fait avec. Après, bon, on peut. Voilà, j'arrive. Moi, j'ai eu la chance de faire de la musique. Ça m'a permis de compenser énormément de choses. Mais j'ai d'autres exemples d'enfants qui ont été passés de l'assistance publique qui ne s'en sont jamais remis. Hein.
Alors, je l'ai dit dans l'introduction, vous avez été placé dans une dizaine de familles d'accueil. Vous étiez un enfant de l'assistance publique. Vous parlez dans Gérard Fesch, fils d'assassin, fils de saint. Vous parlez d'une famille qui vous accueille au Creusot, la famille David, qui, pour moi, est l'équivalent des Thénardier chez Victor Hugo.
Oui, alors c'est une famille, donc j'arrive, j'ai 5 ans, j'ai pratiquement 6 ans, hein, voilà, plus de 5 ans et demi. Donc effectivement, j'arrive avec cette blessure de chez Marie, c'est compliqué, je ne peux pas admettre cette famille-là, comme c'est pas possible. Bon, après, j'ai parfaitement compris que cette famille, on va le dire franchement, donc était payée pour me garder. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y avait aucun amour, il y avait strictement rien. On est là,
on vous exploitait, on vous fait travailler, faire le ménage, faire la vaisselle, et puis il y a pas d'affection.
Non, il y a aucune affection.
Il y a pas de tendresse.
Ah non, strictement rien. Il y a strictement rien du tout. Voilà. Et puis effectivement, il faut aller chercher le lait le matin, il faut faire le jardin. Mais bon, tout ça.
Mais il y a ce chien aussi. Il y a ce berger allemand Kaiser. Voilà. Qui est peut-être le seul qui vous comprend, qui vous apporte protection et affection.
Complètement.
Et vous aimez les animaux aussi.
Ah oui, j'adore les animaux, oui.
Vous pouvez parler de ce Kaiser, notamment l'épisode où le père David vous poursuit, vous allez vous réfugier.
Ah, c'est ça, oui.
Vous voulez expliquer, Gérard Fesch?
Alors donc, ça se passait pas très bien dans cette famille. Hein. J'étais rebelle complètement. Et puis, donc un soir, je ne sais plus ce qui s'est passé. Enfin, une violente dispute éclate entre Monsieur David, donc père nourricier, et puis moi. Donc ça se passe assez mal du tout. Et qu'est-ce que je fais? Je quitte la maison, je m'en vais. C'est l'hiver, il fait moins 5 degrés. Hop, il y a la niche du chien de la Kaiser, mon berger allemand, qui est juste à côté. Qu'est-ce que je fais? Hop, au lieu d'aller dehors, froid dehors, je me glisse contre lui. Et il était content que je sois là, très bien. Et puis quelques temps après, la famille David s'inquiète, je ne reviens pas. Donc sorte, m'appelle, pas de réponse. Et puis, père David se dit, tiens, c'est curieux, mon chien, je sors, je crie, il n'y a pas de réaction. Donc il a compris que je devais être dans la niche. Donc il arrive pour me déloger d'ici. Et là, le berger allemand, donc Kaiser, montre les dents, grogne. Et cet homme s'en va, rentre chez lui. C'est-à-dire la queue entre les jambes. Voilà. Il m'a protégé.
Vous avez porté, enfant de l'assistance publique, vous alliez à l'école avec Vous aviez une médaille, ouais. une médaille de bronze avec votre matricule ouais, de l'assistance ouais. publique, 276 010.
Exactement. Ouais.
Vous dites que c'est la médaille des enfants de mauvaise famille.
Ouais.
Et puis surtout, l'administration de l'assistance publique fournissait aux familles des vêtements que vous deviez porter, cravate, béret et cape. Mmh. Et aujourd'hui, vous dites, contrairement à moi, ouais. impossible pour moi de porter une cravate.
Ah oui, c'est impossible. Ce sont des choses.
Vous détestez
qui...
l'uniforme, de
oui,
toute façon.
Oui, l'uniforme. Ça, c'est quelque chose qui me. Voilà, c'est impossible pour moi d'être habillé comme. Non, c'est pas possible. L'uniforme, je ne peux pas le supporter. Et à l'époque, effectivement, on recevait nos colis de la DAS. Et moi, j'avais l'impression, quand on mettait ces habits, qui avait marqué dans le dos, il y avait marqué « enfant de l'assistance publique hein. ». C'était quelque chose de je ne pouvais pas apporter ça. C'était, il y avait, voilà.
Mais est-ce que vos camarades à l'école vous montraient du doigt ou ça se passait bien ?
Non, ils me montraient... Non, bon, au niveau de l'accoutrement, non, ils ne savaient pas. Mais par contre, au niveau de l'école, oui, ça a été aussi assez difficile puisque, bon, les enfants entre eux, on savait que j'étais de l'assistance publique et des fois...
Est-ce voilà. que vous pensez bon, que les maîtres oui. ou le directeur d'école... Oui. vous ont traité plus durement que les autres parce que vous étiez un enfant
oui,
de l'assistance
moi
publique.
Moi, je pense, oui. J'ai eu un instituteur qui n'arrivait pas à prononcer mon nom et qui a fini un jour par m'appeler par mon numéro matricule, 176 010. Ça, c'était violent. Voilà, si. Et y a aussi le fait, voilà, on me disait, mais de toute façon, toi, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas qui sont tes parents, déjà. Donc, voilà, c'est violent.
Alors, il faut expliquer à nos auditrices et auditeurs que, bien évidemment, jusqu'à quel âge vous vous êtes appelé Droniou ? Parce voilà. que vous êtes, pour l'état civil, petit voilà. garçon, vous vous appelez Gérard
voilà.
Droniou, au départ.
Alors, moi, je ne sais pas, ça. Moi, je ne le sais pas. Donc, quand je prends conscience de mon nom, je m'appelle Gérard Droniou, avec un D. Non, je vous raconte des bêtises. Je m'appelle Gérard Droniou, avec un T. Voilà.
C'est plus tard qu'on change.
Voilà.
Alors, en plus, vous vivez le changement de
voilà,
nom. Vous passez
exactement.
De Droniou
voilà.
à Droniou.
Voilà, en 1964, j'ai 10 ans. La directrice de la DAS arrive et me dit, voilà, Gérard, on s'est trompé à ton sujet. On a mal lu la fiche d'état civil. Tu ne t'appelles pas Droniou, mais tu t'appelles Droniou. On a cru que c'était un T, mais en fait, c'est un D. Donc, j'avais parfaitement compris que c'était un mensonge. Voilà. Donc, je deviens Droniou. Voilà. Est-ce qui va rendre, les recherches me concernant, extrêmement difficiles, puisque c'est même pas le nom de ma mère. C'est un nom d'emprunt. C'est un nom qui appartient à d'autres familles que la mienne.
C'est absolument... émouvant de lire votre enfance parce que je trouve que finalement vous n'êtes pas un enfant gâté, mais ce qui est merveilleux, c'est que vous avez su rebondir. Vous n'êtes pas parti du principe « j'ai pas eu de chance dans ma vie, j'ai pas été aimé ». Au contraire, vous vous êtes battu. Alors vous vous êtes révolté, vous vous êtes insurgé, vous avez fugué,
ouais.
vous partez sur Paris. Mais j'aimerais là... Gérard Fesch, lire ce que vous écrivez, page 202,
ouais.
concernant la jeunesse actuelle. Je n'aimerais pas me retrouver coincé dans ces ghettos de banlieue. Bon, vous avez connu, vous avez vécu dans un immeuble au Creusot chez les David. Et vous écrivez, je n'aimerais pas me retrouver coincé dans ces ghettos de banlieue que le pouvoir laisse enfler, peut-être à dessein, qui sait. Qu'il doit être difficile d'y devenir femme, d'y devenir homme. Le diable... jour après jour, y cuisine une soupe amère que la jeunesse perdue, livrée à elle-même, écartelée entre des cultures différentes, mangera en prison.
Ouais, c'est ça.
Vous étiez regardé comme de la mauvaise graine,
ouais.
comme peut-être celui qui pourrait finir en prison.
Exactement.
Or, vous n'y êtes jamais allé,
non.
vous n'avez jamais eu de problème avec la justice.
Non, jamais de problème avec la justice. Effectivement, combien de fois j'ai entendu, ne serait-ce que Marcel David, la personne qui était chargée de me garder, mais Mère Nourricière, mais toi tu vas finir en prison. Mais voilà, c'était... on est classé vraiment comme voilà, la mauvaise graine, la personne qui va mal tourner. Bon, moi, j'ai eu, encore une fois, une chance extraordinaire. C'est que dans toute cette difficulté, tout ce malheur, j'ai eu la chance de découvrir la musique et d'être passionné par la musique.
Alors,
et ça,
Ça, ça a sauvé votre vie.
Complètement.
On en parle justement après une première pause musicale, si vous le voulez. C'est Gérard Fesch qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. Je rappelle le titre de ces deux livres, Fils d'assassin, fils de saint, aux éditions Balland, et puis La pensée du moineau chez Book Ellis. Il nous accompagne jusqu'à midi sur Radion.
Just not today.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Gérard Fesch, juste avant la virgule musicale, justement, vous expliquiez que vous, l'enfant peu aimé, maltraité, qui a reçu une fessée déculottée devant toute l'école, quelle humiliation.
Ouais.
Et que finalement... C'est ça que j'aime chez vous, c'est cette résilience, cette capacité à rebondir. Cet enfant qui n'a pas de racines, qui se cherche, va trouver force en aimant la musique. Et vous l'écrivez, la musique a sauvé ma vie.
Ah oui.
Expliquez-nous cela, Gérard Fesch.
Complètement, la musique a sauvé ma vie. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais je me rappelle avoir vu les musiciens, par exemple, de l'harmonie défiler, etc., entendre les sons de trompette. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Et j'ai vite compris qu'en faisant de la musique, c'était la liberté. C'était la liberté, une manière de sortir un peu de cette famille d'accueil. Bon, c'est pas que j'étais extrêmement doué, mais ça a toujours bien fonctionné. Et ça a été pour moi un élément, quand je me retrouvais avec ma musique, j'étais plus du tout avec la famille. Je n'avais qu'un but, c'était de faire de ma vie, de devenir musicien. Et ça a été, ça n'a pas été sans difficulté, puisqu'à l'âge de 15 ans, ça marchait bien, je jouais dans un orchestre, je faisais tous les bals des alentours là, du Creusot, etc., etc. Je gagnais bien ma vie.
Alors en plus, vous l'écrivez, je gagnais presque plus d'argent que le père David, qui était mon père de famille d'accueil.
Exactement. Donc c'était de la liberté. Je jouais, je partais, je repartais le vendredi soir, je revenais des fois que le lundi matin. Mais c'était quelque chose de magique.
Et puis la magie aussi, c'est que la musique efface votre tristesse.
Et voilà, exactement. Ben, c'est la joie. Puis j'ai qu'un but. Le but, je ne suis pas dans les pensées de me dire non, j'ai qu'un but, c'est de faire de la musique. C'est de la liberté. La musique, c'est quelque chose de magique. On s'envole, on n'est plus là. On est parti. C'est
comme
fini.
Quoi les passions sauvent les existences.
Ah, oui.
Alors, c'est la trompette, bien sûr, c'est votre instrument fétiche. Ouais. Et alors, ce premier orchestre, c'est les aventuriers.
Ouais, c'est ça.
Et puis alors après, vous nous expliquez que vous avez accompagné des artistes que tout le monde connaît aujourd'hui, des chanteurs, Serge Lama, Frédéric François et Mike Brandt, qui vous a beaucoup ému d'ailleurs.
Oui, il m'a ému. Voilà. Quand je suis arrivé à Paris, donc je suis parti à 17 ans, je suis arrivé à Paris, je suis tout de suite rentré, connu un musicien qui avait un studio d'enregistrement, voilà, qui faisait une séquence d'enregistrement. J'ai rencontré ici un tromboniste, on a sympathisé, et puis on a formé une sorte de pupille de cuivre, etc., trompette, saxophone et trombone. Et puis un jour, il me dit, musicien avec Mike Brandt, on part pour une tournée, on a besoin d'un trompettiste, c'est ce que tu... Voilà. Bon, moi, je pensais pas avoir le niveau du tout pour faire ça. Bon, j'ai bossé, j'ai travaillé, et j'étais parti dans la tournée. Et puis, cette image de cet homme, Mike Brandt,
qui
est mort à 28 ans, voilà. Et j'ai gardé une image, j'étais placé sur scène, toujours derrière lui, toujours derrière, au fond, derrière. Et à chaque fois que le concert était fini, à l'époque, c'était pas des micros HF, c'était comme une chose avec fil. Et il arrivait devant moi, il me tendait son micro avant de partir. Et dans son regard, je lisais quelque chose de... Il était perdu. Il était perdu. C'était exceptionnel. Mike Brandt, sa voix était fabuleuse, etc. Mais ça m'a toujours marqué ce regard. Qu'est-ce que je fais là?
Et d'ailleurs, justement, vous parlez de l'observation de ce regard de Mike Brandt. Mais dans La pensée du moineau, vous écrivez: les enfants abandonnés à la naissance possèdent un meilleur sens de l'observation que ceux entourés de leurs parents.
Oui. On est plus à l'affût de ce qui se passe autour de nous. On sait les choses, on comprend les choses. Voilà. Moi, j'ai toujours... je vais dire ça, peut-être que ça peut choquer, mais avec le recul, je me dis, le fait de ne pas avoir de parents, d'être un enfant placé, voilà, quelque part, ça m'a servi. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus libre. Au bout d'un moment, on n'a pas de compte à rendre à ces gens-là. Vous voyez ? On n'a plus de compte à rendre. Quand une dispute est arrivée dans ce foyer, etc., c'était pas mon père, c'est pas ma mère. Donc, je pouvais... L'émotion n'est plus là, il n'y a plus rien. Et puis, encore une fois, on comprend les choses autrement, parce qu'on est en dehors de ça. On ne fait pas partie de la famille, donc on ressent les choses. Moi, je ressentais parfaitement les choses, ce qu'ils pensaient de moi, comment ça allait se passer, c'est clair. Ah oui. Et cette souffrance... Ce qui était compliqué, je sais que, voilà, grâce à la musique, c'était hop, c'était fini, ça y est, hop, ça partait. C'était l'échappatoire, ça c'était... Ah, moi, aujourd'hui, je dis franchement, je n'aurais pas eu la musique, je ne sais pas ce qui serait passé, ça c'est clair.
Alors, il faut dire que vers l'âge de 17 ans, lorsque vous fuguez, finalement, vous quittez cette famille David, bon, qui s'intéresse peu à vous, finalement, il est loin, c'est pas grave...
Ouais.
Mais finalement, à Paris, vous avez mené un peu une vie de SDF.
Oui, mais j'étais heureux. Je suis arrivé à Paris. Ben, je ne connaissais pas Paris, rien du tout, strictement rien.
Alors, un petit boulot de manutentionnaire aux prises uniques.
Oui.
Mais c'est bien avant encore monter en puissance dans l'univers de la musique.
J'ai toujours une... je ne sais pas si c'est de la chance. Je ne connais pas Paris. J'arrive à Paris, gare de Lyon. Je n'avais jamais été à Paris. Je prends le métro, j'avais jamais pris le métro de ma vie, je monte dans les stations et puis finalement je ressors métro porte d'ici les Moulineaux avec ma trompette et puis ma guitare sur le dos et puis un petit sac avec 2-3 linges, c'est tout ce que j'avais. Et je monte les escaliers et là je vois en sortant un panneau, prise unique, cherche manutentionnaire. Prise unique était en face. Je vais voir le prise unique, je me pose la question, on me dit oui, on a besoin de manutentionnaire, etc. Pour mon adresse, tout ça, mon nom, tout ça. Votre adresse, je n'ai pas d'adresse, j'arrive de... Ah, vous ne savez pas où dormir. Non, non, Bon, écoutez, alors, pas de problème, vous allez dormir, il y a un hôtel ici. Donc, en arrivant, j'avais déjà une chance assez fabuleuse, voilà. Bon, après, c'est mon étationnaire, ça a duré que quelques mois. L'été passé, bon, j'ai passé une période, effectivement, couché dehors dans la rue, mais ça aussi, c'était des éléments, couché dehors, j'ai passé 6 mois à dormir dans Paris, mais c'est positif, on apprend énormément.
Alors, est-ce que le service militaire à la base aérienne de Dijon a été un élément positif ? Parce que vous qui haïssez l'uniforme, même si vous avez donné des cours de trompette et de musique aux jeunes appelés là-bas à Dijon, ça a été un moment positif, ce service militaire ?
C'est une perte de temps. Ce n'a été qu'une perte de temps. Après, bon, encore une fois, j'ai eu cette chance de faire de la musique. Voilà, le seul travail que j'avais à faire, c'était le matin à 7h moins le quart. Il fallait jouer la trompette pour lever les couleurs, monter le drapeau, etc. Ça, c'était, voilà, on me demandait de faire ça. Et puis donner quelques cours aux engagés qui étaient ici, etc. Bon, je fais de la musique, c'était bien. Mais bon, voilà, pour moi, c'était une perte de temps, enfin...
Dans votre livre de réflexion, La pensée du moineau, ce petit moineau qui vous suit par la fenêtre de l'hôpital ou à d'autres moments plus heureux de votre vie, vous écrivez « J'aime la France, mais elle ne sera jamais ma patrie ». Comment doit-on comprendre cela ? Est-ce que vous pourriez vous faire mal voir avec...
Oui, mais c'est pas... faire mal voir... Moi, je comment dire, c'est peut-être lié au fait de ne pas avoir d'identité dès le départ, de ne pas avoir de parents, de choses à ce qui se rattachait. C'est pareil, je n'ai jamais été... je suis heureux en France, j'en ai rien contre la France, mais je ne me situe pas comme Français, comme patriote du tout.
Alors vous ne votez plus ? Non, vous dites que vous n'avez voté qu'une fois en 81, que vous avez été très vite déçu. Donc je suppose que vous aviez voté François Mitterrand.
Exactement.
Celui qui avait fait abolir la peine de mort.
Exactement. Voilà, j'ai voté.
Vous ne votez plus.
Non, je ne vote
plus.
Vous
dites aujourd'hui, même si on mettait une amende, c'est pas grave. L'amende, je n'irai pas voter.
Ben exactement, c'est ça.
Oui. Voilà. Le monde politique vous fait vomir.
Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Puis c'est pareil, je veux dire que je ne suis pas convaincu par qui que ce soit. Pourquoi je vais aller voter non, ça m'intéresse. Non.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord que nous marquions un nouvel intermède musical ?
Pas de souci.
C'est Gérard Fesch qui nous accompagne aujourd'hui sur Radione dans Wagon Livre. Je rappelle que cet entretien a été enregistré le 15 octobre dernier lors du 3e festival du livre à Blanzy en Saône-et-Loire. On retrouve notre invité et puis Gérard, vous allez nous parler de la découverte de votre père, Jacques Fesch, un assassin guillotiné en 1957. On y revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
A-t-on voulu me faire disparaître ? Je préfère avoir un père guillotiné que pas de père du tout. C'est ce qu'écrit notre invité, Gérard Fesch, dans son livre « Fils d'assassin, fils de saint » paru chez Ballant avec une préface de maître Éric Dupont-Moretti. Gérard Fesch est avec nous devant notre micro. Gérard Fesch, beau parcours que le vôtre, enfant de l'assistance publique, qui rebondit, passionné par la musique qui lui sauve l'existence. Vous accompagnez des grands chanteurs à la trompette, qui est votre instrument de prédilection, ouais. Serge Lama, Frédéric François, Mike Brandt, vous nous l'avez dit précédemment. Vous êtes un amoureux des chansons de Georges Brassens, Garou ouais. Gori, entre ouais, autres.
Exactement.
Et puis, vous avez une vie de famille, vous vous mariez, vous aurez 3 enfants. Et à l'âge de 40 ans, par le biais d'un article paru dans l'Express, un article de Michel Legris du 14 avril 1994, c'est le grand bouleversement de votre vie que je vous prie d'expliquer aux auditrices et auditeurs de Radion.
Oui, alors j'ai passé, on va dire, pratiquement 40 ans de ma vie à chercher mes origines, avec la volonté de découvrir qui est mon père. Et bon, étant donné qu'on m'a changé déjà de la première lettre de mon nom, donc c'était compliqué de trouver tout ça. J'ai interrogé la DAS, etc. Je ne pouvais pas. Tout était bien ficelé, je ne pouvais rien trouver. Et en 1994, donc, je faisais un spectacle du côté de Gap. Et puis à la fin du spectacle, la chanteuse de l'orchestre, qui savait vaguement que j'étais d'assistance publique, à la fin me tend un article de presse. Elle me dit, dans une enveloppe, elle me dit, tiens Gérard, tu lis ça, lis cet article-là. Et bon, ok, je dis, c'est quoi ? Elle me dit, lis, voilà. Donc je prends l'article, etc., je le mets dans mon sac. Et la pianiste de l'orchestre vient me voir, elle me dit, lis bien cet article, va jusqu'au bout. Je dis, oui, pas de problème. Et puis voilà, on s'en va. Et là, j'arrive chez moi, je prends l'article, j'ouvre l'article, il est question donc des jeunesses chrétiennes de France, les JMF. On voit une photo avec Carlina Lustigier qui est à Philadelphie et qui évoque la béatification de Jacques Fesch. Jacques Fesch, on explique un peu qui est Jacques Fesch, condamné à mort, guillotiné, etc. Je prends cet article, je me dis, mais pourquoi on me donne ça ? Qu'est-ce que je vois ? Pas bien l'intérêt ? Enfin bref. Et puis à l'époque, j'avais mon fils qui était dans une école catholique, donc je lui donne, pour convenance, comme ça, je lui donne l'article, je lui dis, écoute, ça va sûrement intéresser ton directeur. Voilà, donne ça à ton directeur, il met ça dans son cartable, et puis je vais me recoucher. Puis après, je me dis, c'est quand même bizarre, pourquoi on insiste comme ça ? Allez, je vais chercher l'article, je relis l'article, et à la fin de l'article, je découvre qu'on précise que Jacques Fesch a eu un enfant d'une demoiselle qui s'appelait Thérèse, c'est tout, Thérèse, et que cet enfant, Gérard, on donne le prénom, a été abandonné à l'assistance publique. Voilà, c'est tous les éléments qu'on donne.
Et là, vous vous dites, bon, Gérard, ce peut ouais. être moi, assistance publique, effectivement,
oui.
ça a été l'institution qui oui. a dominé mon enfance voilà. à l'adolescence. Et alors,
et
que
puis,
se passe-t-il par la suite ?
Alors, déjà, le premier calcul que je fais immédiatement, je me dis, Jacques Fesch a été incarcéré le 25 février 1954.
Je vous prie de m'excuser, oui. Gérard Fesch. Il faut expliquer oui. ce que Jacques Fesch, votre père, oui. a fait.
Alors, je le découvre en entrée sur l'article de l'Express. Cet homme donc, a fait un hold-up le 25 février 1954 qui s'est mal terminé. À l'issue de ce hold-up, un policier a été tué. Il est arrêté. Il est incarcéré à la prison de la santé. Il écrit pendant son temps d'incarcération et 3 ans après, il est guillotiné après un procès, voilà, procès tout à fait particulier. Voilà. Donc moi, je découvre tout ça. Alors, c'est déjà pas mal. Et puis, donc, je me dis, voilà, je suis né le 28 octobre 54. Jacques Fesch est incarcéré le 25 février 54. Est-ce que ça pourrait être mon père ? Effectivement, il y a un battement de 15 jours où c'est possible. Bon, je me dis quand même, ça serait quand même fort. Et le lendemain matin, j'appelle Michel Legris, le journaliste, et puis qui me passe l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Affaire Fesch. Il avait fait ce papier-là pour la promotion d'un livre qui s'appelle L'Affaire Fesch. On passe le journaliste qui a écrit l'écrivain de L'Affaire Fesch, et monsieur Bernard Goulet, et me dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes appelé Trogneux avec un T au début de votre existence? Ben, je lui dis oui, jusqu'à Trogneux, jusqu'à l'âge de 10 ans, ensuite on a changé mon nom. Il me dit, eh bien, écoutez, j'ai sous les yeux la déposition qu'a fait une certaine Thérèse Trogneux en cour d'assises, à la cour d'assises de Paris, qui déclare avoir eu un enfant de Jacques Fesch. Donc vous êtes bien celui-ci, puisque je me suis appelé Trogneux, effectivement, jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc à partir de ce moment-là, ah, je sais que, voilà, je suis le fils de Jacques Fesch.
Et alors là, vous menez toute une enquête. Et puis alors, un marathon judiciaire qui va durer combien d'années?
Qui va durer 14 ans pour retrouver déjà le droit de porter mon nom. Parce que ce qui est important de savoir dans cette histoire, donc quand je découvre qui est mon père, donc l'image déjà de la guillotine est violente, etc. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Ce père, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un voyou, un gangster, puis il a tué un policier. Puis après, quand je rentre dans l'histoire, je m'aperçois que c'est pas tout à fait ça. Mais pour entrer dans l'histoire, il y a un élément qui me fait permettre, qui me demande d'aller plus loin, c'est que j'apprends très vite, parce que le lendemain même, j'apprends qu'il a écrit des livres. Donc je vais à la FNAC, le premier livre que je trouve, j'achète le livre de Jacques Fesch, dans 5 heures, je verrai Jésus. Et là, je vois certaines lettres qui sont publiées, etc., où Jacques Fesch, la veille de son exécution, demande que son fils, c'est-à-dire Gérard, soit repris par la famille. Surtout, il a peur que je devienne orphelin, enfin enfant de l'assistance publique. Il fait une démarche précise, il demande à ce que je sois reconnu comme tel. Je me dis, comment ça se fait? Pourquoi rien n'a été fait? Et à partir de là, je décide d'approfondir, de rentrer vraiment dans l'histoire.
Et alors là, vous allez de découverte en découverte. Ouais. Vous découvrez que vous avez une demi-sœur, ouais. Véronique.
C'est ça. Je découvre que j'ai une demi-sœur. Donc au début, pas de souci, elle est ravie de me rencontrer.
Alors, elle s'appelle Véronique Fesch.
Elle s'appelle Véronique Toury. Véronique Toury, enfin c'est encore l'histoire avant. Véronique Toury, puisque cette personne épouse en fait son cousin Germain, ce qui est pas banal.
Enfin, c'est une demoiselle Fesch.
C'est une demoiselle Fesch, c'est la fille de Jacques Fesch, voilà. Et quand très ravie, elle connaît mon existence, elle est heureuse, elle m'invite, elle me dit je suis content de te retrouver, etc. Et au fil de la discussion, pendant le repas, elle me dit finalement tu as eu de la chance, tu as été pris par une famille, tu as été adopté, c'est très bien, voilà. Et je lui dis non, je n'ai jamais été adopté du tout, pas du tout. Et à partir de là, ce moment, c'est précis, c'est clair, paf, terminé, les portes se referment. Pourquoi? Parce que je deviens un ayant droit dans ce cas-là, comme je n'ai pas été adopté. Et là, tout s'arrête.
Il faut dire que dans ses écrits de prison, alors Jacques Fesch, votre papa, a écrit, moi j'ai 3 références que vous mentionnez dans votre livre, Lumière sur l'échafaud. Ouais. Vous dites qu'en version française, ça a été vendu à plus d'un million d'exemplaires aux éditions ouvrières.
Exactement.
De même que Cellule 18.
Oui.
Alors, c'est paru bien après la mort de Jacques Fesch, en
1972. Oui, c'est ça, 72.
Et puis, dans 5 heures, je verrai Jésus, paru chez Fayard Le Sarment en 1990.
Ouais.
Il parle de Véronique et du petit Gérard.
Voilà, c'est ça.
Donc, Jacques Fesch a connaissance de votre naissance.
Oui.
Vous êtes un enfant adultérin.
Oui, c'est ça.
Et comment vous vivez cela à 40 ans? Vous êtes père de famille déjà.
Je suis père de famille.
Vous êtes marié, père de famille.
Marié, ouais.
Comment la découverte de cette identité nouvelle qui reste à confirmer, comment vous le vivez psychologiquement?
Alors psychologiquement, je vais le vivre très bien. Je le vis très bien. Puisque tout pendant ces 40 ans, mon souci, ça a été de me dire, mais qui? D'où je viens, qui est mon père, qui est ma mère. C'est vraiment, on a besoin, moi je dis tout, on a besoin de savoir qui sont, d'où on vient, c'est capital. Moi j'aurais pas pu passer ma vie sans savoir. J'ai eu cette chance de pouvoir savoir, et je sais que les gens qui ne connaissent rien, ça doit être terrible pour eux. Donc j'ai eu cette chance de savoir ça. Après il y a eu le combat pour porter le nom, mais pour moi ça a été un soulagement énorme. Ça y est, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et j'ai oublié, dès l'instant où j'ai changé 14 ans après de nom, je me suis appelé Fesch, effectivement. Mais en 24 heures, mon nom, même pas, mon ancien nom a été oublié. Après, il y a le poids de ce qui s'est passé. puis après, bon, je rencontre au cours de cette histoire que, bon, bah, il ne méritait absolument pas la mort. Hein, c'est pas du
Alors,
tout.
On va évoquer le procès de votre père. Je rappelle simplement, on va marquer un nouvel et dernier intermède musical. Ouais. Donc, je rappelle que votre père, Jacques Fesch, et son camarade Criquet, qui est embarqué dans cette affaire sans trop savoir d'ailleurs ce qui va se passer, c'est le 25 février 1954. Vous n'êtes pas né encore.
Non,
hein.
Je ne suis pas né.
Vous êtes en octobre.
Voilà.
Et le 25 février 1954, Jacques Fesch va braquer la boutique d'un changeur au quartier de la Bourse à Paris.
Ouais.
Ça se passe mal. Il est poursuivi notamment par des policiers. Et à 18h, alors sans viser en fait, avec une arme sous son pardessus, il vise comme ça au jugé. Je crois qu'en plus il n'avait pas une très bonne vue. Votre père est très grand, il mesure 1m89. Il tire un peu à l'aveuglette. Malheureusement, il tue un policier de 35 ans qui s'appelle Vergne, qui est le père d'une petite fille de 8 ans, qui deviendra d'ailleurs plus tard avocate. Et on va avec vous, d'ici quelques minutes, Gérard Fesch, parler du procès, un procès inique sans doute et certainement bâclé. On en parle juste après la pause musicale. Je rappelle que c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et que c'est Gérard Fesch qui est aujourd'hui avec nous sur l'antenne de Radion.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes bras froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai notre premier film. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Gérard Fesch, j'ai rappelé juste avant la pause musicale, le 25 février 1954, la tragédie, et vous l'écrivez d'ailleurs, le rideau s'ouvre sur une tragédie qui sera aussi la mienne. Jacques Fesch, Votre père donc est arrêté après avoir tué un policier de 35 ans. Et il va passer plus de 3 ans de détention à la santé. Il y a le jugement des assises. Et puis ensuite, il y a l'exécution de la peine, la guillotine, très précisément le 1er octobre 1957. Alors, dans quelle mesure peut-on dire que le procès de votre père est vraisemblablement, je le dis avec prudence, tronqué, voire peut-être truqué.
C'est ça.
Tronqué, truqué.
Oui. C'est ça. Donc moi, j'ai eu accès, suite à une demande au procureur de la République, accès aux archives de Paris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je faisais une émission de radio sur France Culture et où il avait été question de le journalisme, me posait des questions sur ces fameux mots rayés qu'il y avait eu, etc. Falsification du vote des jurés. Bon, moi, je ne connaissais pas particulièrement ce truc-là, sur les mots rayés. Et puis, à l'issue de cette émission, donc un député de la circonscription de Bordeaux, Vidaliès, m'appelle et me dit « Mais qu'est-ce que c'est que j'ai entendu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On commence là, le vote au cours d'assises, de jurés aurait été falsifié. Il me dit « Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. » Enfin, bref, voilà. Donc, à partir de là, j'ai voulu chercher, j'ai voulu creuser. Donc, j'étais aux archives et puis j'ai consulté les archives. J'ai déjà commencé par récupérer ce qu'on appelle la grosse. À l'époque, le jugement d'assises, c'était produit, écrit à la main sur un papier, le compte-rendu, etc. Complètement. Et là, je vois effectivement les questions qui sont posées par le président.
Il y a 29 questions.
Il y a 29
poussées,
questions,
hein,
exactement.
Donc c'est un jury populaire, ce sont les assises.
Un jury populaire, donc pour 6 questions qui sont posées concernant des circonstances aggravantes, donc déterminantes de la sentence finale, de la peine de mort. Les jurés répondent par non, 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 non. Et à l'issue, ensuite ces noms sont biffés, rayés, remplacés par des oui authentifiés par le président de la cour d'assises. Bon, ça déjà, c'est pas banal.
Alors comment expliquer cette falsification par le président de la cour d'assises, Jadin? Qu'on voulait absolument la mort de Jacques Fesch, qui avait tué un policier.
Exactement.
Et qui avait les syndicats de police, finalement, aussi, qui faisaient pression.
On est en 1954, donc il y a quand même l'appel de l'abbé Pierre, donc il y a le contexte politique déjà. Voilà, cette fille qui meurt de faim, tout simplement. Et parallèlement, donc, il y a Jacques Fesch, le fils d'une bonne famille, qui se permet de tuer un policier pour braquer, pour s'acheter un bateau, partir dans les îles. Donc voilà. Donc il fallait montrer l'exemple. En plus, il y avait la venue de la reine d'Angleterre et le duc d'Edimbourg, à ce moment-là, pile quelques jours après le procès de Jacques Fesch. Hein, il était jugé le 6 avril, la reine venait le 10. Donc les syndicats de police ont dit, nous, si on n'a pas la tête de Jacques Fesch, on boycotte la venue de la reine. Enfin, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses comme ça. Et on a été très loin dans ce procès. Bon, il y a le problème du vote des jurés, il y a le problème de la balistique. Ce qu'il faut surtout savoir, le rapport de la balistique, moi je l'ai au dossier d'assises, qui est extrêmement clair. Avant que Jacques Fesch ne tire sur ce policier, le policier lui tire 5 fois dessus. Ça, c'est jamais été dit. On ne le dit pas. C'est quand même... Bon, il y a ça. Il y a l'autre élément aussi, qui est quand même pas banal, c'est que le président de la cour d'assises, qui s'appelait Jadin, est un ami proche du avocat général, qui est Maître Floriot.
Avocat des partis
civils
et des syndicats de police.
Exactement.
Et qu'ils dînent ensemble la veille du procès.
Et ils dînent ensemble
la tête de veau.
Et voilà, mais c'est exact. Mais tout ça, c'est tout à fait ça. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, le président, le fils du président Jadin, était poursuivi par la justice pour détention d'armes, etc., de drogue, et est défendu par Maître Floriot, jugé à la cour de Mâcon. J'ai tous les éléments.
Un faisceau de suspicion, des choses pas claires.
C'est ça. Donc ça a été. Tout ça, donc on a été ça a été étouffé. Là, il y a une cassation qui a été demandée concernant le vote des jurés. La cour de cassation, ça a été le jugement de la cour de cassation a été de dire l'affaire était jugée normalement, on n'a pas à revenir dessus, hop, fini, et on plie le dossier, c'est fini. Voilà.
Jacques Fesch, votre père n'a pas que des ennemis, J'apprends en vous lisant, par exemple, que le romancier et journaliste Max-Paul Fouchet avait, à la télévision, en 1957, encouragé les téléspectateurs à demander la grâce de Jacques Fesch auprès du président de la République, René Coty.
C'est ça, exactement. Oui, oui, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a eu beaucoup d'universitaires qui ont fait énormément, qui ont fait des pétitions, etc. Et qui ont de... Voilà, lui, son émission de télévision, il avait demandé publiquement ce que les gens écrivent pour obtenir la grâce donc de Jacques Fesch. Et son émission a été purement, simplement annulée. Voilà.
Alors, votre père a un avocat, Maître Baudet, qui va demander la grâce de Jacques Fesch auprès donc du président de la République, René Coty. Et je voudrais, si vous me le permettez, Gérard Fesch, de lire ce que René Coty écrit à l'avocat de votre père, Maître Baudet. « Dites bien à votre client qu'il a toute mon estime et que je désirerais beaucoup le gracier. Mais si je le fais, je mets en danger la vie d'autres agents de police. Demandez-lui, je vous en prie, d'accepter le sacrifice. » Dites bien à votre client qu'il a toute mon estime et que je désirerais beaucoup le gracier, mais si je le fais, je mets en danger la vie d'autres agents de police. Demandez-lui, je vous en prie, d'accepter le sacrifice de sa vie pour la paix de l'État, pour que la vie d'autres gardiens de la paix soit sauvegardée. S'il le fait, je lui en garderai une reconnaissance infinie. »
Ouais, c'est pas banal ça quand même.
Voilà. Alors, il faut évoquer cette fois-ci un aspect essentiel, c'est que Jacques Fesch, votre papa, qui va attendre 3 ans en prison avant d'être guillotiné le 1er octobre 1957, c'est que j'allais dire votre père a rendez-vous avec Dieu en prison. Une rédemption, un mot sur peut-être le fait que l'homme peut s'amender.
Ah oui. Oui, complètement. L'homme peut, oui, c'est ça. L'homme peut s'amender, l'homme peut devenir autre chose. La prison n'est pas négative. Effectivement, il aurait pas été guillotiné. C'était un homme transformé. L'homme qui est rentré en prison, l'homme qu'on a guillotiné, plutôt, c'est pas du tout le même homme qui est rentré en prison.
Alors, il faut dire que Jacques Fesch, il a 24 ans quand il est emprisonné.
Il a 24 ans quand il rentre en prison. 27 ans, donc, quand il apprend le jour de son anniversaire. C'est le 6 avril 57 qu'il sera guillotiné le 1er octobre 57. Et il accepte il avait compris, dans ses lettres, il écrit, il sait qu'il va servir d'exemple, il comprend cette injustice, mais il donne sa tête. Hein. Et quand il écrit, par exemple, que chaque goutte de mon sang serve à empêcher un crime, il a compris ça. Et il va à la mort, les derniers jours, les dernières heures dans sa cellule, c'est extrêmement fort.
Alors, 3 ans d'emprisonnement marqués par une conversion. D'ailleurs, il y a 3 hommes qui peuvent en témoigner. Il y a le père de Voyot, aumônier des prisonniers. Frère Thomas, qui est un ami de Pierrette. Donc, Pierrette,
Pierrette, c'est sa femme, c'est son épouse.
C'est la femme, la légitime. Hein. Ouais. Donc, maman de Véronique.
Voilà.
Et puis, Maître Baudet, qui lui-même s'était converti au christianisme. Ouais. Maître Baudet, qui peut-être a sauvé plus l'âme de son client que son
Exactement.
Corps.
Il était fasciné, Maître Baudet, un petit peu par l'attitude de Jacques Fesch. Hein. Voilà, ça c'est clair. Et il s'est empressé. C'est un excellent avocat, mais il a défendu l'âme de voilà, ça montait au ciel. C'était ça qui, voilà. Mais plus que ça, la tête de son client, on est bien d'accord. Ouais, voilà.
Gérard Fesch, est-ce que aujourd'hui encore, en cette fin d'année 2023, est-ce que le portrait de Jacques Fesch est toujours exposé en permanence dans la basilique de Lisieux?
Oui, toujours. À l'entrée, sur la gauche, il est proche du général de Gaulle, qui est là, Edith Piaf. Voilà, je ne sais plus encore exactement qui. Et puis Jacques Fesch ici. Mais il y a beaucoup de... Comment dire? Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai découvert cet homme. Par exemple, il y a une école qui porte son nom. Une école primaire qui porte le nom de Jacques Fesch. qui se trouve à Lyon-sur-Mer, à côté de Caen. Il y a un centre de réinsertion des détenus en Italie, côté de Florence, qui porte le nom de Jacques Fesch. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Et alors, où en est la procédure de béatification de votre père, qui a été lancée par Monseigneur Lustiger, mais c'est surtout l'abbé, enfin le prêtre Moreau qui doit.
Qui était chargé.
Alors, peut-être que maintenant cet homme n'est plus de ce monde, mais qu'en est-il de la béatification de votre papa ?
Toujours de ce monde, donc le dossier est terminé, la béatification, le dossier est terminé, donc c'est pas, il est considéré comme bienheureux, c'est parti, c'est au Vatican, mais pour obtenir une béatification, dans le droit canon, il faut obtenir un miracle. C'est-à-dire que l'Église attend un miracle pour béatifier Jacques Fesch. Voilà.
Alors vous n'y croyez pas au miracle, hein ?
Non, je ne crois
pas.
Vous,
le religieux, c'est
pas
votre
truc pas. Non. Par contre, là, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'on a engagé une procédure en réhabilitation. On a même fait évoluer, on a même fait mettre un amendement à la loi sur l'abolition de la peine de mort.
Ça, c'est... Alors, vous en avez rencontré beaucoup, des hommes politiques et des avocats.
Ouais.
Roland Dumas. Qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand.
Ouais.
Bon, mais là, c'était par rapport au fait que vous puissiez être reconnu comme étant le fils de Jacques Fesch et porter son nom.
Oui.
Maître Gilbert Collard, qui a été peut-être un peu négligent.
Plus que négligent, on va dire.
Et puis, alors, il y a ce ministre qui n'est pas nommé.
Oui, voilà.
Ministre de Jacques Chirac.
C'est ça.
Qui vous laisse de grands espoirs au moment où la Cour de justice doit... Parce que Véronique, votre demi-sœur, malheureusement, vous a apprécié au début, mais après, vous n'avez pas gardé de très bonnes relations. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui.
Elle n'est plus de ce monde,
Que craignait-elle?
C'est ce que...
Il y avait de l'argent, il y avait un héritage.
Oui, c'est ça.
Il y avait
ne serait-ce que les droits d'auteur déjà de Jacques Fesch, des livres de Jacques Fesch. Et puis, il y a un patrimoine. Voilà, c'est ça. Donc, elle l'a dit carrément. Enfin, son avocat l'a dit. Ma cliente n'entend pas partager les biens avec ce monsieur. Enfin, voilà.
Et Maître Dupont Moretti actuellement ministre de la Justice, a été votre avocat il y a quelques années par rapport à...
Oui, c'est ça. Par rapport à cette... Parce que justement, quand j'ai lu un petit peu tout ce comme le déroulé de ce procès, que je trouvais lamentable, on s'est vu, etc. Et il me dit, on ne peut pas demander une révision du procès. L'affaire est jugée, on ne peut pas revenir dessus. C'est pas la peine. Par contre, on peut dire effectivement ce qui s'est passé. Mais lui, il a été énormément touché sur le parcours de Jacques Fesch. Ce qui me dit, l'homme qu'on incarcère, c'est pas du tout le même homme à qui on va couper la tête. Hein, c'est, voilà. Et puis, il y a ce côté aussi, ce procès en béatification. C'est quand même pas... On béatifie pas n'importe qui comme ça. Voilà. Donc, on peut demander une réhabilitation, vu tout ce qui s'est passé, vu la rédemption, en fait, de ce qu'il est devenu après. C'est ça. Mais c'était compliqué, puisque la loi ne nous autorisait pas à demander une réhabilitation. Ça n'existait pas pour les condamnés à mort dont la peine a été exécutée. Donc, il a fallu déposer une QPC au Conseil constitutionnel. Le constitutionnel, ensuite, a donné son accord, a dit oui, mais à condition d'interroger les parlementaires. Si les parlementaires sont d'accord... Ils proposent une loi et on acceptera. Les parlementaires ont été interrogés, ont proposé une loi, la loi est acceptée. Donc on a pu maintenant, on a été habilité à déposer une demande en réhabilitation qui j'attends sous les mois qui vont venir. On va avoir une date d'audience et ça sera jugé par Maître Spinesi, donc à la chambre criminelle de Paris. Et j'ai bonne chance d'y parvenir.
Encore un long marathon judiciaire, fils d'assassin, fils de saint, point d'interrogation, de Gérard Fesch aux éditions Ballant, et puis La pensée du moineau, des réflexions plus personnelles. Et je termine par cette phrase qui résume tout le... peut-être un des moteurs de votre existence, et c'est aussi une très jolie maxime, vous écrivez « Je préfère avoir un père guillotiné que pas de père du tout ».
Bien sûr.
Gérard Fesch, j'ai été très heureux de vous accueillir dans cette émission, très ému par votre témoignage et très heureux que vous nous ayez expliqué ce parcours à la fois douloureux, mais aussi où vous êtes la preuve même de la résilience, du courage, rebondir, ne pas se laisser abattre.
Exactement.
Et ne pas non plus subir le milieu d'où l'on vient. On peut en sortir.
Exactement.
Encore faut-il s'en donner la peine.
Voilà, aller au bout des choses, c'est ça.
Merci Gérard
Fesch.
C'est
moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce wagon livre sur Radion. Si vous avez manqué l'émission, mais vous la réécoutez en podcast sur yannickpetit.fr, et je vous donne rendez-vous samedi prochain. toujours à 11h sur Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.
Merci à vous.